12. À l'intérieur, sur du velours bleu nuit, qui était, à leur su ou à leur insu, la couleur de la cour royale de Gilead, reposait une montre, lovée au centre d'une chaîne enroulée. Gravé sur le couvercle, il distingua trois symboles, une clé, une rose, et au milieu, légèrement au-dessus des deux autres, une tour, avec un chapelet de fenêtres minuscules s'enroulant à l'extérieur en spirale ascendante. Roland fut ébahi de sentir une nouvelle fois les larmes lui monter aux yeux. Lorsqu'il tourna de nouveau le regard vers eux, deux jeunes femmes et un vieil homme, le cerveau et les tripes de la Tête Corporation, il en vit d'abord 6 au lieu de 3. Il cligna des yeux pour faire se dissiper les doubles fantômes.
« Ouvrez-la et regardez à l'intérieur, »
suggéra Moses Carver.
« Et pas besoin de cacher vos larmes en notre compagnie, fils de Steven, car nous ne sommes pas de ces machines par lesquelles nous remplacerait volontiers les autres, s'ils le pouvaient. »
Roland vit que le vieillard parlait sincèrement, car des larmes glissaient le long de l'ébène usée de ses joues. Nancy Dipno sanglotait elle aussi sans s'en cacher, et Marianne Carver avait beau se prévaloir sans doute d'être de nature plus vaillante, ses yeux s'étaient voilés d'un vernis mouillé plutôt suspect. Il abaissa le petit levier actionnant le ressort, et le dessus de la montre s'ouvrit. Dedans, des aiguilles finement ouvragées donnaient l'heure avec une précision parfaite, il en était certain. Au-dessous, dans son propre cadran miniature, une unique trotteuse courait après les secondes. Et à l'intérieur du couvercle était gravée l'inscription suivante. À la main de Roland Deschaine, de la part de Moses Isaac Carver, Marianne Odetta Carver, Nancy Rebecca Dipno. Avec toute notre gratitude, le blanc triomphe du rouge. Telle est la volonté éternelle de Dieu.
Grand merci, Saint,
dit Roland d'une voix rauque et tremblante.
Je vous remercie, et mes amis se joindront à moi s'ils pouvaient encore prendre la parole.
Dans nos cœurs, il parle bel et bien, Roland,
dit Marianne,
et sur votre visage, nous les voyons très bien.
Moses Carver avait le sourire aux lèvres.
Dans notre monde, Roland, donner une montre en or à quelqu'un a un sens particulier.
Et quel est donc ce sens?
Demanda Roland. Il porta la montre, sans conteste l'objet le plus raffiné qu'il ait eu en main de toute sa vie, à son oreille pour écouter le tic-tac délicat et précis de son mécanisme.
Que son travail est accompli et qu'il est temps qu'il aille à la pêche ou jouer avec ses petits-enfants,
expliqua Nancy Dipno.
Mais nous vous l'avons offerte pour une autre raison. Qu'elle compte les heures qui vous séparent de votre but et vous avertisse quand vous vous en approcherez.
Comment pourrait-elle faire une chose pareille?
Nous avons un serviteur du bon esprit exceptionnel au Nouveau-Mexique,
reprit Marianne.
Il s'appelle Fred Town. Il voit beaucoup de choses et se trompe rarement. Cette montre est une Patek Philippe,
Roland.
Elle a coûté 19 000 $, et les fabricants garantissent un remboursement intégral si elle avance ou retarde, ne serait-ce que d'une nanoseconde. Il n'y a pas besoin de la remonter, car elle fonctionne sur pile, pas fabriquée par North Central Positronics, ni une de ses filiales quelconques, je peux vous l'assurer, qui durera 100 ans. Selon Fred, quand vous approcherez de la tour sombre, la montre pourrait bien s'arrêter cependant. Ou se mettre à marcher à l'envers, à remonter le temps,
dit Nancy.
Aussi, surveillez-la.
Moses Carver ajouta,
« Je crois que vous le ferez, n'est-ce pas ?»«
Si fait, » acquiesça Roland. Il rangea précautionneusement la montre dans une de ses poches, non sans avoir longuement contemplé la gravure sur le couvercle, et la boîte dans une autre.
« J'observerai cette montre très attentivement. »
« Il y a autre chose qu'il vous faudra surveiller, » dit Marianne. « C'est Mordred. »
Roland attendit.
« Nous avons des raisons de croire qu'il a assassiné celui que vous appelez Walter. »
Elle marqua un temps d'arrêt.
« Et je vois bien que cela ne vous surprend pas. Puis-je vous demander pourquoi ?»«
Walter a enfin déserté mes rêves. » Tout comme la douleur a déserté ma tête et ma hanche droite. La dernière fois qu'il m'a rendu visite pendant mon sommeil, c'était à Calabrin Sturgis, la nuit du tremblement de rayon.
Il ne tenait pas à leur décrire combien ses rêves étaient effroyables. Des cauchemars dans lesquels il errait, seul et perdu, le long d'un couloir interminable, froid et humide, des toiles d'araignées lui balayant le visage. Puis il y avait eu le martèlement précipité de quelque chose qui fondait sur lui dans les ténèbres, par derrière ou peut-être par au-dessus. Et juste avant qu'il se réveille en sursaut, le reflet d'yeux rougeoyants et le murmure d'une voix inhumaine.
« Père !»
Il l'observait d'un air sombre. Marianne finit par intervenir.
« Méfiez-vous de lui, Roland. » Fred Town, l'homme dont je vous ai parlé, dit « Mordred, l'eau fin ». Il dit que c'est une fin au sens propre. Fred est un homme courageux, mais il a peur de votre ennemi.
De mon fils, pourquoi ne le dis-tu pas ?
Pensa Roland. Pourtant, il croyait connaître la réponse. Elle ne disait pas tout par égard pour ses sentiments à lui. Moses Carver se leva et posa sa canne contre le bureau de sa fille.
« J'ai encore quelque chose pour vous, sauf que c'est à vous depuis le début, à vous de le porter et de le déposer à terre quand vous arriverez à destination. »
Roland se sentit très perplexe, et il fut plus perplexe encore en voyant le vieil homme déboutonner sa chemise. Marianne fit mine de l'aider et il la découragea d'un geste impatient de la main. Sous sa chemise, il portait un maillot de corps de vieillard, le genre que le pistolero appelait un glissoir. Dessous se dessinait une forme que Roland identifia immédiatement et il eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre dans sa poitrine. L'espace d'une seconde, il se retrouva projeté dans le bungalow au bord du lac, chez Beckhardt, avec Eddie à ses côtés. Et il s'entendit dire
« Mettez la croix de Tantine autour de votre cou, et quand vous verrez ça, Carver. Mais tout d'abord,
la croix se trouvait au bout d'une chaîne en or à maillon fin. Moses Carver tira sur la chaîne pour la dégager de son glissoir, regarda la croix quelques instants, leva les yeux vers Roland avec un petit sourire aux lèvres, puis les posa de nouveau sur l'objet. Il souffla dessus. Lointaine et douce monta la voix de Susanna, et le pistolero sentit les poils de ses bras se hérisser.
« On a enterré Pimsy sous le pommier. »
Puis elle se tut. Pendant quelques instants, il n'y eut plus rien. Et Carver, cette fois-ci, les sourcils froncés, inspira profondément, s'apprêtant à souffler de nouveau. Ce ne fut pas nécessaire. Aussitôt s'éleva la voix traînante de John Cullum, avec son fort accent du Nord, non pas de la croix elle-même, mais de juste au-dessus.
« On a fait notre mieux, partenaire. Portenaire. Et j'espère que ça suffira. J'ai toujours su que c'était juste un prêt, alors la voilà retournée à son propriétaire. Vous savez où ça va se terminer, je... »
À ce moment précis, ces mots, qui avaient commencé à s'affaiblir des « la voilà », devinrent inaudibles, même pour l'ouïe affûtée de Roland. Il en avait entendu assez, cependant. Il prit la croix de Tantine Talita, qu'il avait promis de déposer au pied de la tour sombre, et la repassa autour de son cou une nouvelle fois. Elle lui était revenue. Et qu'y avait-il de surprenant à ça? Le cas n'était-il pas une roue?
Je vous dis grand merci, Cy Carver. Pour moi, pour mon cathète qui fut, et au nom de la femme qui me l'a donné.
Ne me remerciez pas,
dit Moses Carver.
Remerciez plutôt Jane Callum. Il me l'a donné sur son lit de mort. Ce type avait un sacré coffre.
Je...
commença Roland. Et pendant un instant, il ne parvint pas à ajouter quoi que ce soit. Il avait le cœur trop plein.
Je vous remercie tous,
finit-il par poursuivre. Il inclina la tête vers eux, la paume droite au front, les yeux fermés. Lorsqu'il les rouvrit, Moses Carver tendait ses vieux bras maigres vers lui.
« À présent, il est temps pour nous de reprendre notre route, et vous la vôtre. Passez vos bras autour de moi, Roland, et embrassez-moi sur la joue en signe d'adieu, si vous le voulez bien. Et pensez à ma fille, car j'aimerais tant lui dire au revoir, si je le pouvais. »
Roland fit ce qu'on lui demandait. Et dans un autre monde, somnolent à bord d'un train roulant vers Fédic, Susanna porta la main à sa joue, car il lui semblait que Pop Mose était venu à elle et avait passé le bras autour d'elle pour lui dire « Au revoir, bonne chance, bon voyage. » 13. Lorsque Roland sortit de l'ascenseur dans le hall, il ne fut pas surpris de voir une femme en pull vert de gris et pantalon couleur mousse, debout, en face du jardin, avec quelques autres folken respectueux. Un animal, qui n'était pas tout à fait un chien, était assis à côté de sa chaussure gauche. Roland s'approcha d'elle et lui toucha doucement le coude. Irène Tassenbaum se tourna vers lui, les yeux agrandis par l'émerveillement.
« Vous l'entendez ? »
demanda-t-elle.
« C'est comme ce chant qu'on a entendu à Lovell, mais en 100 fois plus doux. »«
Je l'entends, oui. »
Puis il se pencha pour prendre Othée dans ses bras. Il scruta le regard cerclé d'or du bafouilleux, tandis que les voix chantaient derrière eux.
« Ami de Jake, » dit-il, « quel message t'a-t-il donné ?»
Othée essaya, mais tout ce qu'il réussit à articuler fut un mot qui ressemblait à « dandy-o », ce qui rappela vaguement à Roland une chanson à boire et qui rimait avec « Adeline, c'est une coquine, oh-oh ». Roland posa le front contre le front d'Othée et ferma les yeux. Il sentait le souffle chaud du bafouilleux. Et plus encore, une odeur au cœur de sa fourrure, l'odeur du foin dans lequel Jake et Benny Slightman avaient sauté presque hier encore. En esprit, mêlé au doux chant des voix, il entendit la voix de Jake Chambers pour la toute dernière fois.
« Dis-lui qu'Eddie a dit, surveille dans de l'eau, n'oublie pas. »
Et Othée n'avait pas oublié. 14. Une fois dehors, alors qu'il descendait les marches du 2 Hammersholt Plaza, une voix pleine de déférence les interpella. « Monsieur ? Madame ?» C'était un homme en costume et casquette noire. Il se tenait à côté de la voiture la plus longue et la plus sombre que Roland ait vue de sa vie. Rien que la regarder mit le pistolero mal à l'aise.
« Qui nous envoie un bouquet cercueil ? » demanda-t-il.
Irène Tassenbaum eut un sourire. La rose l'avait rassénérée, excitée et enivrée aussi. Mais elle se sentait toujours fatiguée. Et elle avait également hâte de pouvoir contacter David, qui, à l'heure qu'il était, devait être malade d'inquiétude.
« Ce n'est pas un corbillard, c'est une limousine. Une voiture pour les gens exceptionnels, ou qui se croient exceptionnels. »
Puis au chauffeur...
« Pendant le trajet, est-ce que quelqu'un dans vos bureaux pourra vérifier les horaires d'avion pour moi ?
Bien sûr, madame. Puis-je vous demander votre compagnie de prédilection et votre destination ?
Pour la destination, Portland, dans le Maine. Ma compagnie de prédilection est Air Elastic, s'ils ont des vols cet après-midi.
Les vitres de la limousine étaient en verre fumé. L'intérieur était plongé dans la pénombre, avec des loupiottes de couleur. Othé sauta sur la banquette et contempla avec intérêt le décor urbain qui défilait. Roland fut passablement intrigué de constater la présence d'un bar très bien garni le long de son siège. Il songea à prendre une bière et se ravisa, persuadé que même un alcool léger suffirait à lui embrouiller les esprits. Irène n'eut pas tant de scrupules. Elle se servit une petite bouteille de ce qui ressemblait à du whisky et tendit le verre dans la direction de Roland.
Que votre route soit toujours ascendante et le vent toujours dans votre dos. Me foine Bucco,
dit-elle. Roland hocha la tête.
Très beau toast. Grand merci, Sai.
Je viens de passer les trois jours les plus fascinants de ma vie. C'est moi qui vous dis grand merci, Sai. Merci de m'avoir choisi.
Et de m'avoir baisé, pensa-t-elle, tout en le gardant pour elle. Elle et Dave s'offraient parfois encore un petit câlin, mais rien de comparable à ce qu'elle avait vécu la nuit précédente. Jamais ça n'avait été comparable à ça. Et si Roland n'avait pas eu d'autre chose en tête? Il était fort probable qu'elle serait grimpée au rideau et qu'elle aurait explosé comme un pétard de carnaval. Roland opina et se mit à regarder défiler les rues de la ville, de cette version de Lud, encore jeune et pleine de vie.
Et votre voiture ? Demanda-t-il.
Si nous voulons la récupérer avant notre retour à New York, nous enverrons quelqu'un la chercher et la ramener dans le Maine. L'audit de David nous suffira sans doute. C'est l'un des avantages d'être riche. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça ?
Vous avez une carte mobile qui s'appelle Eddie ?
C'est un nom de marque.
Ah !
Roland fit comme s'il avait compris.
Roland, je peux vous poser une question ?
Il dessina son moulinet de la main pour lui signifier de poursuivre.
Quand on a sauvé l'écrivain, est-ce qu'on a aussi sauvé le monde ? C'est ce qu'on a fait, d'une certaine manière, n'est-ce pas ?
Oui.
Comment se fait-il qu'un écrivain qui n'est même pas très bon, et je sais de quoi je parle, j'ai lu 4 ou 5 de ses livres, puisse être responsable du destin du monde ou de tout l'univers?
S'il n'est pas très bon, pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté au premier?
Madame Tassenbaum sourit.
Touché. Il est lisible, en fait. Je veux bien lui accorder ça. Il sait raconter de bonnes histoires, mais il n'a pas d'oreille concernant la mélodie de la langue. J'ai répondu à votre question. Maintenant, répondez à la mienne.
Dieu sait que les auteurs persuadés que le monde entier dépend de leur vocation, ça existe.
Je pense à Norman Mailer, mais aussi à Shirley Hazard ou à John Updike. Mais ici, il semblerait que ce soit vraiment le cas. Comment c'est arrivé ?
Roland haussa les épaules.
Il entend les bonnes voix et chante les bonnes chansons. Le cas, pour résumer.
Ce fut au tour d'Irène Tassenbaum de faire comme si elle avait compris.